À la suite de ce cantique, je vous propose que nous regardions un petit peu de façon un peu panoramique l'évangile selon Jean. Plusieurs expressions du cantique 195 en sont tirées. Et l'évangile selon Jean peut être des 66 livres de la parole de Dieu. C'est mon vieux travers de statisticien qui ressort, mais je ne sais pas si c'est vrai à Colomb, mais sans doute, au moins dans beaucoup d'assemblées que nous connaissons, le livre le plus souvent ouvert le dimanche après-midi. Et qui fait le plus souvent l'objet de méditation. Alors, emprunter des sillons souvent tracés, souvent tâches délicates, cela étant, quand ils offrent des panoramas aussi fleuris et aussi parfumés que l'évangile selon Jean, on se plaît à les reprendre. Et puis, et c'est peut-être un petit peu le propos que je voudrais avoir aujourd'hui, c'est que bien souvent, je crains que nous ayons une approche de la parole de Dieu qui soit un petit peu... Alors voilà, il y a des peintres là, donc je m'avance en eau profonde pour moi, mais un petit peu pointilliste, vous savez. Alors, on a des petits points comme ça, mais quand vous avez un tableau, par exemple un tableau de Seurat, eh bien, si on regarde le tableau de près, on voit des petits points de couleur, on se dit, ben oui, c'est joli, mais on voit rien. Il faut s'éloigner de suffisamment loin pour que, alors, apparaissent que ces petits points de couleur qui nous semblent effectivement jolis, eh bien, forment un ensemble. Et il me semble que c'est important, de temps à autre, de prendre un petit peu ce recul et de regarder une grande portion de la parole de Dieu. Peut-être prendre une fois l'ensemble du Pentateuque. C'est ce que vous aurez, je pense, dimanche prochain, c'est ce que tu nous as dit ce matin. L'ensemble du Livre des Juges, c'est ça ?
Toute la période.
Toute la période, ben voilà. Pas simplement Gédéon et sa cruche, c'est très bien, Gédéon et sa cruche, c'est très utile. On peut en tirer de nombreuses applications très pratiques. Mais c'est intéressant aussi de voir comme ça l'ensemble de ce Livre des Juges, ce panorama qui s'étend sur 400 ans avec ces 12 juges, comment ils s'articulent, etc. Donc ça, c'est vraiment passionnant. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, faut pas le déflorer. Donc là, je vous propose l'évangile selon Jean. Pourquoi ? Parce que combien cet évangile va bien avec notre cantique 195 qui nous parle de ces paroles du Seigneur Jésus. Ces paroles du Seigneur Jésus qui est venu, et alors on peut commencer sans attendre, juste pour faire le lien avec notre cantique, à lire... Le texte d'où il est directement tiré, c'est au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, le verset 66. « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous croyons, et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Voilà, juste pour faire le lien, effectivement, et d'autres expressions du cantique auraient pu nous faire penser à d'autres textes de cet évangile selon Jean. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu l'évangile selon Jean en perspective. Il se trouve qu'une des façons dont je trouve qu'on a d'apprécier la parole de Dieu, c'est à la fois de voir qu'à la fois au télescope et au microscope, elle est aussi parfaite dans les deux cas. On peut prendre un verset, un seul verset, essayer d'analyser les mots de ce verset, de voir où c'est qu'ils sont cités ailleurs, peut-être, et recevoir une richesse extraordinaire. Mais on sait aussi prendre du recul et regarder comme ça une longue portion de la parole de Dieu, et on va en retirer aussi un enseignement magnifique. Et on va voir aussi comment l'Esprit de Dieu a conduit. Alors, était-ce à leur insu, était-ce consciemment ? C'est difficile de le dire après 2000 ans d'écart. Mais enfin, comment l'Esprit de Dieu, en tout cas, a conduit les auteurs sacrés à non seulement nous donner un enseignement bibliquement inspiré dans chacun de ces mots, mais comme le dit l'évangéliste Luc, qui lui l'avait fait de façon consciente, Jean ne sait pas, mais Luc l'avait fait de façon consciente, j'ai composé mon premier traité au Théophile. Et donc, l'Esprit de Dieu a conduit les auteurs bibliques à composer souvent leurs textes. Et quand on voit la façon de composer les textes, eh bien, ça nous permet de mieux rentrer dans les textes, et alors, tout naturellement, comme quand vous avez fini le puzzle, vous pouvez voir comment chaque pièce s'ajuste avec les autres. Eh bien, quand on prend un texte particulier, ce qu'on appelle une péricope, un paragraphe ou un chapitre qui forme une unité en tant que tel, eh bien, combien naturellement cela s'inscrit dans le courant, dans le mouvement global du livre en question. Mais j'ai composé mon premier traité. L'évangile selon Jean, nous allons le voir, a été composé d'une certaine manière. Cela étant, ce qu'il faut bien voir, c'est que si cette fois-ci je fais une analogie plus musicale, c'est que la composition correspond au canon de l'époque. Par exemple, tant de Mozart ou de Beethoven, les symphonies se dérouler avec des mouvements qui étaient plus lents, plus rapides, plus lents. Enfin, il y avait toute une structure qui existait, qui était la façon d'écrire une symphonie. Alors, d'autres modes étaient plus libres, mais enfin, c'est, ou si on prend la poésie, un sonnet du temps de Ronsard, c'était A, B, B, A, C, D, D, C, E, E, D, E, D, E. C'était vraiment une forme fixe. Alors, il faut pouvoir se replacer dans la forme que pouvaient avoir les auteurs du temps du Seigneur Jésus, enfin, du premier siècle, quelle était leur tournure d'esprit. Et Jean, c'est un juif qui écrit cet évangile, et il va l'écrire à la mode juive. C'est-à-dire qu'il va le construire, comme sont construits un certain nombre de livres de la parole de Dieu, beaucoup plus qu'on ne le croit, selon une forme qu'on pourrait appeler une forme en chiasme. Une forme en chiasme, c'est quoi? C'est que vous avez une partie A qui répond à une partie A' qui fait symétrique. Ensuite, vous avez une partie B qui répond à une partie B' qui est symétrique ici. Une partie C qui répond à une partie C' qui est symétrique là. Et une partie D qui correspond à une partie D' qui est symétrique comme ça. Vous voyez? Et c'est construit pour mettre l'accent, parce que dans la pensée hébraïque, un des points sur lesquels on voulait mettre l'accent, c'était la première, la dernière, et puis ce qu'il y avait au centre. Ça ne veut pas dire que les autres parties étaient sans intérêt, pas du tout. Mais l'accent est souvent mis là-dessus, sur la partie intermédiaire. Alors, il y a des constructions en chiasme qui sont symétriques paires, c'est-à-dire qu'on trouve D, D'. Il y en a d'autres qui sont symétriques impaires, c'est-à-dire qu'il y a un E au milieu. Alors, juste pour vous donner une idée, par exemple, quand on prend le livre d'Ézéchiel, qui c'est qui prend souvent le livre d'Ézéchiel? Mais si vous regardez les chapitres 12 à 24, qui sont même parmi les chapitres les plus difficiles de ce livre, eh bien, on voit que le chapitre 18, eh bien, il est au centre d'un chiasme qui va des chapitres 12 à 24, et c'est le chapitre 18 qui est le cœur de l'enseignement de cette section des chapitres 12 à 24 d'Ézéchiel. Donc, quand on a compris cette construction, qu'on voit comment les parties se répondent, tout naturellement, ça nous amène au chapitre 18, et on comprend que Ézéchiel a composé son récit en mettant en exergue le chapitre 18 pour nous dire, attention, dans ces chapitres 12 à 24, c'est là que se trouve l'enseignement clé. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, si vous le voulez bien, avec cet évangile selon Jean. Et essayer de voir quel enseignement cela peut nous donner pour nous. Parce qu'on verra que c'est pas simplement utile pour, après, la prochaine fois qu'on lira l'évangile, d'essayer de le remettre dans un plan comme cela. Mais c'est parce que cette composition-là, elle est importante et elle nous aide non seulement à voir la grandeur du Seigneur, mais aussi à bien mettre les choses dans nos vies. Alors, ce que je vais vous dire là aussi se base sur une étude que j'ai faite il y a déjà quelques années, qui est une étude statistique dans laquelle j'avais pris l'ensemble des mots, les mots grecs bien entendu, on va pas faire ça sur le texte français, des mots grecs de l'évangile selon Jean, en regardant la fréquence de chacun de ces mots, ou de groupes de mots, parce que par exemple, quand il y a, on va le voir, il y a amour, aimer, tout ça, c'est, on prend l'ensemble du champ sémantique proche, et on regarde la fréquence en fonction des chapitres. Tout naturellement, le plan surgit de lui-même. C'est-à-dire que c'est pas une construction, je pense, intellectuelle, c'est une construction qui sort du texte. Et ça, on est très content quand on trouve ça. Pourquoi on est très content? Pourquoi? Parce que ça nous montre que la parole de Dieu, eh bien, elle est au-dessus de nous. Alors, bien entendu, quand on prend l'évangile selon Jean, c'est plus facile à dire, mais la parole de Dieu, on la reçoit d'en haut. On ne se penche pas sur elle comme si on la regardait de notre supériorité. On la reçoit d'en haut et on l'étudie. De sorte que, si ici, il y en a qui ont à cœur de lire et d'étudier la parole de Dieu, et je crois que, comme tu le disais ce matin, l'arroseur, il est bien arrosé, eh bien, ça vaut la peine de ne pas y aller avec ses idées préconçues, peut-être pas même directement avec les tonnes de commentaires qu'on peut mettre à côté, mais d'essayer de voir comment le texte lui-même permet de faire sortir le sens. Et de ce point de vue-là, on est souvent richement béni. Alors, cet évangile selon Jean, il est magnifique. Pourquoi d'abord a-t-il été donné? Alors, ce dont on s'aperçoit, ça pour les enfants c'est assez évident, c'est que quand on lit l'évangile selon Matthieu, puis on reprend l'évangile selon Marc, puis on reprend l'évangile selon Luc, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes récits. Si on prend Matthieu, Marc et Luc, s'il y a des enfants qui commencent à lire les évangiles, ben, ils trouveront le même récit du paralytique guéri, le même récit de la multiplication des pains, des paraboles qui se ressemblent, la parabole du semeur, on la trouve aussi trois fois. Et c'est pour cela que les trois premiers évangiles, ils ont été appelés des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même vision optique, vous savez ce que ça veut dire. Et syn, c'est comme synonyme, c'est deux mots qui sont pareils. Synoptique, c'est deux visions qui sont les mêmes. Et l'évangile selon Jean, alors lui, arrive un petit peu en perpendiculaire, si je puis dire, de cette vision. Il va donner une autre vision. Pourquoi ? Parce que Jean écrit vers l'an, pas très facile à dater, mais vraisemblablement vers l'an entre 80 et 85. On a plutôt tendance actuellement à diminuer un petit peu la datation de l'évangile selon Jean, moins par rapport à l'Apocalypse. Vraisemblablement donc vers 80 à 85. Et les trois autres évangiles sont déjà connus. Ils ont déjà été répandus. Donc Jean ne va pas répéter ce que Matthieu, Marc et Luc ont déjà mis dans leurs évangiles. Il va donner une autre vision qui est adaptée au contexte dans lequel il est et qui est un contexte de remise en cause de la personne du Seigneur Jésus, de sa divinité et de son humanité et de la parfaite alliance de l'un avec l'autre. Et c'est pour cela qu'il va écrire cet évangile et il va donner d'ailleurs au chapitre 20, verset 31, on peut lire ce texte, Jean 20, 31, le pourquoi il a écrit cet évangile. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Donc pourquoi l'évangile selon Jean a-t-il été écrit ? Premièrement, pour qu'on croie que Jésus, cet homme qui a marché sur la terre, celui dont nos librairies sont pleines de biographies plus ou moins réalistes, on a retrouvé le vrai Jésus, ah ben ça y est, c'est le succès de librairie, il faut que, vous savez, en littérature, en édition, on appelle ça les marronniers. Vous savez, les marronniers, c'est des trucs qui arrivent tout le temps à la même période. Eh bien, un marronnier des hebdomadaires type Le Point, L'Express ou de l'édition, eh bien, c'est de sortir un livre ou un numéro spécial sur Jésus. Alors, vous avez un gros titre. On a redécouvert le Jésus historique, les dernières avancées sur la vie de Jésus, etc. Puis ça vous raconte, en général, ils essaient de trouver ceux qui ont les théories les plus farfelues parce que répéter ce qu'il y a dans les évangiles, c'est pas très drôle. Ça ferait moins vendre. Et voilà. C'est pour ça que cet évangile est important. Ces choses sont écrites pour que Jésus, ce Jésus, qui a vécu réellement, et le Christ, celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Mais pas simplement pour qu'on sache cela, mais pour qu'en croyant, on ait la vie par son nom. Et là aussi, difficile de faire des statistiques, mais au ciel, je ne sais pas si les anges s'amuseront à faire cela, on aura sans doute bien mieux à faire, mais si on disait, mais à partir de quel livre de la Bible vous êtes converti ? Quel est le verset qui vous a touché ? Croyez pas que l'évangile selon Jean ressortirait, Jean 3,16 ressortirait parmi beaucoup d'autres livres de la parole de Dieu comme étant un livre qui était le moyen par lequel des milliers, des millions, peut-être des centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont connu le Seigneur Jésus à travers le cours de l'histoire de l'Église. Alors c'est pour cela que c'est avec bonheur qu'on commence l'étude de ce livre, de cet évangile selon Jean. Alors la première partie correspond à mon A. C'est le prologue. Le prologue, c'est donc le chapitre 1, les versets 1 à 18, et il va nous présenter Dieu le Fils, dans sa grandeur. Il vaut à peine la peine de le relire, ce texte, juste là aussi, pour ceux qui... je ne vais pas donner un TP, mais si cette méthode-là vous intéresse, je vous propose de l'appliquer à ces 18 versets, et vous remarquerez qu'eux-mêmes sont construits selon un plan magnifique de chiasme. Juste pour vous donner une idée, verset 1 qui correspond au verset 18. Au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Verset 18, personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et vous remarquerez qu'il y a aussi des parallèles avec Jean qui rend témoignage deux fois, au début et à la fin. Et le verset clé, c'est que, le verset qui est au centre, et là c'est un chiasme impair, il y a donc un verset central, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Et on retrouve le même propos de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean n'écrit pas cet évangile pour notre pure connaissance intellectuelle. Il écrit cela pour qu'on ait les paroles de la vie éternelle et qu'en croyant, on ait la vie et qu'on ait le droit d'être enfants de Dieu. Béni soit-il. Alors, après ce prologue majestueux dans lequel il nous présente cette parole qui est à la fois était auprès de Dieu, qui était éternel, eh bien, l'auteur de l'évangile va nous présenter dans la suite, ça c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est un témoignage. C'est le témoignage de Jean qu'on trouve dans le chapitre 1, dans les versets 19 à 28. Dans ce témoignage, et ça commence, et c'est ici le témoignage de Jean. Et ça, c'est un mot clé, témoignage. témoignage, ça on va le retrouver à travers l'ensemble de cet évangile selon Jean. C'est un mot qui est très bien distribué. Pourquoi? Parce que il en est question, par exemple, au chapitre 5, c'est un mot qu'on trouve très souvent, le mot témoignage, témoin. Parce que quelle est aussi l'importance qu'attache Jean à ce mot, à ce verbe? C'est de dire, eh bien, il y a eu des témoins. On n'est pas là dans des mythes, on n'est pas là dans des histoires. Et c'est pour ça que Jean va commencer sa première épître, qui embraye si bien sur cet évangile, en disant, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons dit concernant la parole de vie, mais ça, c'est pas des choses qu'on a inventées. Ce n'est pas des choses qu'on a imaginées, c'est quelque chose qu'on a vu, qui a été une réalité tangible. Et ça, je crois que c'est la caractéristique magnifique de notre foi. C'est de dire que nous ne sommes pas dans une situation de mythe, nous ne sommes pas dans une religion d'invention, des fables habilement imaginées, comme le pourra le dire Pierre, mais nous sommes dans une religion qui s'appuie sur des faits. Oui, un jour, Jésus a marché. Oui, ce que les évangiles nous disent, c'est des témoins dignes de foi qui ont été capables de mourir pour leur foi, qui les ont écrits et qui les ont attestés. Puis vous imaginez bien qu'au 1er siècle, il y avait des gens qui étaient encore vivants ou dont les parents avaient connu le Seigneur Jésus. S'il y avait eu des choses qui étaient objectivement fausses, eh bien, ça aurait été rapidement dénoncé. Donc, il y avait un contrôle cela là-dessus, un contrôle même sur le plan humain. Et puis, Dieu a veillé sur sa parole de façon magnifique. Et c'est pour cela qu'on va commencer cet évangile en disant, il y a ce témoignage de Jean. Et ce témoignage de Jean, il va relier cet évangile et le prologue sur Dieu le Fils, il va le relier aux Écritures de l'Ancien Testament en disant « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » et puis il cite « Comme l'a dit Ésaïe le prophète ». Et donc Jean va introduire par son témoignage quelqu'un de plus grand. Et c'est exactement l'angle sous lequel nous est présenté Jean dans cet évangile. Jean-Baptiste, dans l'évangile selon Jean, l'évangéliste. Ça aussi, c'est pas toujours facile à comprendre. Il y a deux Jean. Il y a un Jean-Baptiste et puis un Jean l'évangéliste. Donc Jean-Baptiste, quand il est question de... C'est ici le témoignage de Jean, verset 19, c'est pas Jean l'évangéliste, c'est Jean-Baptiste. Donc comment il nous est présenté ici? C'est celui qui présente le Seigneur Jésus et puis qui s'efface. C'est ce qu'il va faire au verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ses disciples, ils vont suivre désormais le Seigneur Jésus. Et ensuite, quand on va voir le chapitre 3, on rapporte à Jean que Jésus baptise, non pas lui mais ses disciples. Et quelle est la réponse de Jean? Oh, mais il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et vous voyez comment, par cela même, ça nous montre quelle doit être la forme de notre témoignage. Nous sommes des témoins non pas pour attirer les disciples après nous, mais nous sommes des témoins pour nous effacer et présenter le Seigneur Jésus puis nous effacer. Et combien cela est délicatement dit dans le témoignage de Jean-Baptiste. Alors ensuite, dans la troisième partie, ici, nous avons... 3 jours, du chapitre 1, verset 29, au chapitre 2, verset 12. Où c'est qu'on voit les 3 jours? Bien déjà, au chapitre 1, il est question d'un premier jour, verset 29 jusqu'au verset 43, puis ensuite des versets 44 à 52, et c'est marqué, chapitre 2, verset 1, et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Jean, chapitre 2, verset 1. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et on a donc 3 tableaux, 3 tableaux magnifiques qui vont nous présenter qui est le Seigneur Jésus. Dans ces tableaux, on va trouver un concentré des noms du Seigneur Jésus qui nous révèle sa personne. Dans le premier tableau, des versets 29 à 43, on va trouver les noms de agneau de Dieu. On va trouver le nom de fils de Dieu, verset 34. On va trouver le nom de Messie, verset 42. Ensuite, dans le deuxième tableau, on va trouver de nouveau le nom de Rabbi, verset 50, de fils de Dieu et de fils de l'homme au verset 52. Et puis, ensuite, dans le troisième tableau, on va avoir un miracle qui va accréditer les 2 tableaux précédents. Donc, on pourrait mettre 2 tableaux de révélation plus un miracle. Ici, ensuite, la partie D, nous l'avons à la fin du chapitre 2, c'est les versets 13 à 25, même si c'est pas toujours très facile de faire le découpage parce qu'il y a des versets de transition. Et c'est l'annonce de la résurrection. Le Seigneur Jésus a cette parole un peu curieuse que d'ailleurs les Juifs ne comprennent pas en lui disant « Détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le relèverai. » Chapitre 2, verset 19. Et les Juifs lui disent « Mais attends, ça fait 46 ans et en plus le temple n'était même pas terminé à cette époque-là. Il a été terminé après la mort du Seigneur Jésus. Peu de temps d'ailleurs avant d'être détruit par les armées de Titus. » Eh bien, on a été 46 ans à bâtir ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. leur don qu'il fut ressuscité d'entre les morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Alors, Jean, il tue le suspense hein, dans son évangile, parce que il annonce qu'il est ressuscité déjà au deuxième chapitre. Mais oui, c'est normal, parce qu'il y avait déjà les trois autres évangiles qu'on avait sous la main, donc on connaissait l'histoire. Donc là, il va remettre les choses en perspective, plutôt. On va se retrouver dans les chapitres 3 à 7 avec une grande partie. Et cette grande partie, elle a comme pour mot-clé la vie. Donc là, on va découper ensuite les chapitres suivants avec trois grandes parties qui font chacune 5 chapitres. Donc là, ici, la vie, c'est les chapitres 3 à 7. Là, je vous dis aussi, il faut que vous me croyez sur parole, mais je peux vous envoyer un papier si ça vous intéresse pour l'appuyer. C'est que c'est dans ces chapitres-là qu'on trouve le plus fréquemment le mot « vie ». Et on le trouve, par exemple, déjà dans le chapitre 3, ou de façon implicite ou explicite, mais déjà au début du chapitre, pour naître, ben, naître, c'est quoi? C'est paraître à la vie. C'est ça, naître. C'est quand quelqu'un naît de nouveau, eh bien, il reçoit une vie de nouveau. Et puis, on a le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et verset 36, « Qui croit au Fils a la vie éternelle. » Et qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Au chapitre 4, le Seigneur va parler de l'eau de la vie à cette femme samaritaine qui, elle, avait une vie si pitoyable. Et il y parle, verset 14, « Cette eau qui sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Ensuite, si on prend le chapitre 5, eh bien, on voit que le verset 24, « Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ce passage qui fait qu'il y aura une résurrection et que cette résurrection, elle sera pour la vie. Et verset 26, « Le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, etc. » Chapitre 6, je passe rapidement parce que sinon on n'aura pas l'aperçu global. Hein. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 6? Il y a le miracle de la multiplication des pains. Ensuite, la foule, le Seigneur Jésus traverse le lac directement en marchant sur l'eau. Et la foule, elle fait le tour du lac et puis elle le retrouve le lendemain. Et ils cherchent du pain. Le Seigneur leur dit, vous cherchez du pain à manger, mais moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et il va présenter encore une fois ce sujet de la vie. Et pour terminer, à la fin du chapitre 6, ce que nous avons lu, tu as les paroles de la vie éternelle. Et chapitre 7, à la fin, verset 37, lors de cette fête à laquelle Jésus monte, pour terminer, la dernière journée, Jésus se tint là et cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Vie, la vie. La vie a été amenée par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est un des thèmes phares de l'Évangile selon Jean. Et alors, à ces mots-clés, il y a aussi des verbes qui sont associés. Et par exemple, je ne vais pas tous les donner parce que sinon ce serait trop long. Je vais en donner juste trois pour correspondre à ces trois grands termes. Et si on fait une analyse statistique, les verbes aussi sont présents dans ces chapitres de façon plus importante qu'ailleurs. La vie, un verbe qui revient fréquemment, c'est le verbe croire. Comment faire pour avoir la vie de Dieu en soi? Eh bien, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Pour avoir la vie de Dieu, comment faire? Quelqu'un est loin de Dieu, il faut qu'il croie, tout simplement, et ipso facto, sans autre, il reçoit la vie éternelle. Et la vie éternelle, dans l'évangile selon Jean, éternelle, c'est pas simplement la vie qui nous permettra de vivre plus vieux que 120 ans, mais c'est la vie de qualité éternelle. La vie éternelle, dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, on a une définition, c'est qu'il te connaisse, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. De sorte que éternel, c'est pas simplement une notion de durée, ça on va plutôt le retrouver dans les écrits de Paul, mais c'est plutôt une notion de qualité dans les écrits de Jean, c'est-à-dire une vie de qualité éternelle en relation avec l'éternel, on pourrait presque dire ainsi. Donc, pour avoir la vie, il faut croire. La deuxième partie que l'on trouve dans les chapitres 8 à 12, donc encore une fois 5 chapitres, chaque fois 5 chapitres, c'est le terme « lumière ». Ça va être le grand mot qu'on va trouver dans ces chapitres 8 à 12. On essaie de les parcourir rapidement pour essayer de voir un petit peu. Déjà, chapitre 8, au début, on a un récit significatif, comme souvent, dans ces trois grandes parties de l'évangile, donc E, F, F', elles vont chaque fois commencer par un petit récit qui donne la tonalité. On avait vu déjà de la venue de Nicodème. Là, on va avoir un petit récit avec la femme surprise en adultère. Oh, on voulait mettre la lumière sur ce qu'elle avait fait. Mais ce que va faire le Seigneur Jésus de façon magistrale, c'est qu'il va mettre la lumière non pas sur une faute, d'une femme. Mais le Seigneur Jésus va mettre la lumière sur l'état, sur les fautes de tout ce qui était là. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. C'est pas la lumière, ça? Les pharisiens, ils étaient venus avec leurs lampes de poche pour regarder sous la couette. Le Seigneur Jésus, il prend son projecteur et tout est en plein soleil. Et c'est pour cela qu'il enchaîne en disant, Jésus donc parla encore en disant, moi je suis la lumière du monde. Mais c'est pas une lumière pour juger. Il l'a déjà dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Mais c'est une lumière chaude, une lumière pour que on puisse marcher, non pas dans les ténèbres, mais avoir la lumière de la vie. Et ça va nous donner tout de suite, je le mets, le verbe qui va aller avec lumière, ça va être marcher. Il y en a d'autres qui vont avec cette deuxième partie. Je retiens celui-là. Marcher dans la lumière. Et c'est ce que le Seigneur va présenter dans la suite de ces chapitres. Par exemple, au chapitre 9, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dans le chapitre 9 de l'évangile selon Jean, on va trouver l'histoire de l'aveugle-né. L'aveugle-né, il n'était pas dans la lumière. Il était dans les ténèbres. Mais le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Et maintenant, il voit. Tandis que ceux qui croyaient être dans la lumière, eux, finalement, ils sont aveugles. Et c'est ce que le Seigneur dit à la fin du chapitre 9. Chapitre 9, verset 39. Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Ça, c'est l'aveugle-né, il ne voyait pas. Mais il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a cru, tout simplement. Il a cru, il a reçu la vie. Et du coup, il a la lumière pour pouvoir marcher. Mais, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et alors, les pharisiens, ils s'énervent. Ils disent, mais nous, est-ce qu'on est aveugles? Oui, parce que vous croyez que vous voyez. Et alors, le Seigneur continue avec ce... On va pas lire tous les éléments. Et puis, au chapitre 11, on a le récit de la résurrection de Lazare. Et là aussi, on a un élément sur la lumière qui est intéressant, où le Seigneur relie ce miracle à la lumière. Chapitre 11, verset 9. « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car la lumière n'est pas en lui. » Il leur dit ces choses. Et après cela, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Vous voyez comment le Seigneur met ce récit, ce miracle qu'il allait accomplir, de faire sortir Lazare de la noirceur du tombeau, de ce tombeau pierre roulée, il faisait tout noir, il le met en relation avec cette lumière. Et encore une fois, on a ce mot « marcher dans la lumière ». Et alors, à la fin du chapitre 12, là aussi je vais très vite, on a encore ce sujet de la lumière qui est très présent. On le trouve déjà au verset 35, quand Jésus dit, chapitre 12, verset 35, « Encore un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. » Encore ce verbe, « marchez pendant que vous avez la lumière. » Afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous, et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Et à la fin de ce chapitre 12, verset 46, « Moi, je suis venu dans le monde de la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc on a cette vision de Jésus comme la lumière du monde. Non seulement venu pour éclairer nous, mais venu pour porter une lumière autour de lui, sur l'état qu'il y avait autour de lui. La partie suivante, des chapitres 13 à 17, le mot caractéristique, c'est « amour ». Et là encore, on n'est pas laissé à notre propre jugement. Dès les premiers versets, « Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin, ou selon une traduction que je préfère, mis le comble à son amour pour eux. » Je trouve que c'est exactement ça. L'heure est venue pour que Jésus mette le comble à son amour pour eux. Le Seigneur nous a aimés de tout temps. Le Seigneur avait aimé ses disciples pendant les 3 ans et demi où il l'avait accompagné. Mais là, il va mettre le comble à son amour pour eux. Il les aima jusqu'à la fin. Et bien entendu, c'est dans cette section des chapitres 13 à 17 que l'on trouve toutes ces expressions. Je vous donne ce commandement nouveau, que vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Et il est question de cet amour du Père, cet amour du Fils, ce qu'on pourrait appeler le carré de l'amour. Je dessine ici le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père aime les enfants, le Fils aime les enfants, et les enfants sont appelés à s'aimer entre eux. Mais c'est un autre sujet. Et ce qu'on trouve comme verbe caractéristique dans ces 5 chapitres, c'est le verbe « demeurer ». Il y en a d'autres aussi, mais celui que je retiens, c'est « demeurer dans l'amour dans l'amour du Seigneur ». Et alors, dans ces chapitres, ce qu'on appelait aussi les dernières paroles, chapitres 13 à 17, pourquoi les dernières paroles? Parce que c'est le long discours que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples, plus la prière qu'il a fait monter, sans doute pendant le repas de la Pâque, le repas où il a institué la scène et le trajet qui a suivi, peut-être jusqu'à Gethsémané. Le Seigneur Jésus s'est entretenu avec ses disciples. Et de quoi il leur a parlé ? Il leur a parlé de l'amour qu'il avait pour eux, de l'amour que le Père avait pour eux et de l'amour qu'il devait avoir entre eux. Il y a des versets absolument incroyables. L'autre jour, l'autre soir, avec les filles, on s'étonnait devant ce verset où il est dit que, chapitre 17, verset 23, qui est peut-être un des versets les plus incroyables, mais on le reçoit comme il est, avec foi et adoration. Chapitre 17, verset 23, où le Seigneur s'adresse à son Père et dit « Tu les as aimés comme tu m'as aimé ». C'est-à-dire que Dieu nous a aimés comme Dieu aime son Fils. Dieu nous a aimés comme Dieu aime son Fils. Ça nous dépasse totalement. Et voilà pourquoi ces chapitres-là sont sans doute parmi les plus chers à notre cœur. Juste d'ailleurs, si vous désirez relire ces chapitres 13 à 17 sont des chapitres très touchants pour le cœur, mais passez-moi l'expression, j'ai parfois eu un peu l'impression qu'on en avait une approche un peu mièvre. Je ne sais pas si vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu plein de pathos, etc. Ce sont des chapitres qui vaut la peine de redécouvrir avec une lecture moins mièvre, plus mâle. Et pour cela, je vous conseille un livre « Dans l'intimité de Jésus » de Donald Carson, qui est un excellent commentaire pour nous conduire dans ces chapitres, justement avec une approche qui nous permet de les redécouvrir avec leur chair, parce que c'est de la viande là, c'est pas simplement du miel qu'on a à manger dans ces chapitres. Vous voulez, c'est de la viande au miel, mais il y a aussi beaucoup de viande, et ça vaut la peine de redécouvrir la viande de ces chapitres, et on en est vraiment fortifié intérieurement. Alors, quand on arrive au chapitre 18 et suivant, eh bien, qu'est-ce qui correspond à la vie, à votre avis ? C'est la mort. Parce que pour que nous, on ait la vie, il a fallu qu'il y ait la mort. Et c'est ce qu'on trouve dans ces chapitres 18 à 19. Ces chapitres qui nous présentent comment le Seigneur Jésus a été trahi, comment il a été amené à un procès inique et comment il a été crucifié. Et des quatre évangélistes, l'évangile selon Jean est celui qui est le plus clair sur la mort effective du Seigneur Jésus. On va pas prendre tous les textes, mais si on prend au chapitre 19 et au verset 33, « Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. » Et celui qui l'a vu rend témoignage, vous voyez encore ce point de témoignage si important, rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Donc, dans cet évangile selon Jean, on a une attestation très forte que la mort est intervenue. La dernière parole qui nous est rapportée du Seigneur Jésus dans cet évangile, qui est sans doute la sixième, verset 30, quand donc Jésus prit le vinaigre, il dit « C'est accompli », ayant baissé la tête, il remit son esprit. Donc, le Seigneur Jésus est mort pour que nous, nous ayons la vie. Et je reviendrai un petit peu en conclusion sur l'ensemble de ce plan. Alors après, heureusement, l'évangile ne s'arrête pas à la fin du chapitre 19. Ce serait trop triste s'il s'arrêtait en disant sur ce verset 41, au lieu, il y avait un jardin, un sépulcre, ils mirent Jésus dans le sépulcre à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Mais qu'est-ce que serait notre foi ? Paul dira en Corinthiens 15, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et alors, heureusement, l'évangile comprend deux chapitres de plus qui vont nous permettre d'ailleurs de compléter le panneau. À l'annonce de la résurrection qu'on avait trouvée ici, on va trouver le fait de la résurrection. Le fait de la résurrection qu'on va trouver dans le chapitre 20, verset 1 à... Et Marie de Magdala qui va au tombeau et qui est la première à entendre cette parole magnifique du Seigneur Jésus. « Marie, ne me touche pas, je ne suis pas montée vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Et alors, il y a beaucoup de micro-correspondances qui sont super intéressantes. Je ne suis pas rentré là-dedans, mais juste pour vous en donner une parmi d'autres. On voit qu'il y avait une incrédulité au début par rapport à l'annonce de la résurrection. Et on voit que dans le fait de la résurrection, il y a aussi une incrédulité. Et que Pierre et Jean qui courent jusqu'au tombeau s'en retournent chez eux perplexes. Ils savent pas trop. Aux trois jours du début, qu'on avait vu, avec deux révélations plus un miracle, eh bien, on va voir de nouveau, trois jours à la fin, dans les chapitres 20, verset 19, à 21, verset 23. Et là encore, on va avoir deux révélations plus un miracle. Les deux révélations, nous l'avons, donc ces trois jours, c'est le premier dimanche, versets 19 à 23. Le deuxième jour, c'est le deuxième dimanche, versets 26 à 31. Et le troisième jour, chapitre 21 jusqu'au verset 23. Et vous remarquerez que c'est pas un hasard, c'est, il y a encore verset 14, il est dit, chapitre 21, verset 14, ce fut là la troisième fois que Jésus fut manifesté. Comme au début, on avait vu noces de Cana, or le troisième jour. Vous voyez, c'est, on pourrait presque dire que Jean, il est lourd. Il nous donne des indices, histoire qu'on se perde pas. Vous voyez, attention, on est bien au troisième, là, hein, vous, si vous avez pas compris, on est bien au troisième, et le troisième, c'est un miracle. Et là, ça va être le miracle de la pêche miraculeuse des 153 gros poissons. Et, les deux révélations qu'on va avoir, la première révélation, c'est le Seigneur Jésus qui montre ses mains et son côté. Et la deuxième révélation, c'est celle qui conduit Thomas à dire une des paroles les plus merveilleuses qu'on trouve dans l'ensemble de la Bible. Quand, je crois qu'on l'a rappelé au cours d'une prière ce matin. Quand il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, avance ta main, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, quand on arrive ensuite, ben vous me direz, mais il ne reste plus que deux versets, il te reste encore B' et A'. Mais oui, mais effectivement, j'ai besoin juste de deux versets. On va lire ensemble. Verset 24 du chapitre 21 de l'Évangile selon Jean. C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai, ce « nous » apostolique ou de tous ceux qui étaient là et qui pouvaient contrôler ce qui était écrit. C'est ce disciple-là, Jean l'évangéliste, qui rend témoignage. Au début, le témoignage, c'était Jean-Baptiste. Et là, on a de nouveau le témoignage qui termine, chapitre 21, verset 24, de Jean l'évangéliste. Tout ce qui a été écrit, je ne me rappelle plus exactement combien il y a de versets dans cet évangile en nombre, mais à peu près peut-être 600 ou 700 versets, eh bien, ces 700 versets, ils sont vrais. J'ai rendu témoignage de choses vraies. Nous savons que son témoignage est vrai. Et alors, à quoi peut correspondre le prologue ? À quoi peut correspondre le prologue, sinon à ce verset 25 ? Et il y a aussi plusieurs, mais là, la traduction d'Arby, elle est misleading, parce que, en fait, c'est pas plusieurs. Lucie, tu peux lire le verset 25, s'il te plaît ?
Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si elles étaient rapportées une à une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir le livre qui serait écrit.
Voilà. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas plusieurs, c'est beaucoup. Et tellement, tellement grandes ces choses-là que Jean pense que si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde... Et c'est quoi le monde ? C'est le cosmos en grec. Je ne pense pas que le monde entier, le cosmos, puisse contenir toutes les choses qui seraient écrites. Alors, excusez, avec respect, on pourrait dire, mais Jean, là, tu es un peu marseillais, tu galèges, là. Le cosmos entier, écrire des livres, tout que nous, on sait que 10 puissance 80, le nombre d'atomes dans l'univers, etc. Mais... c'est une hyperbole, c'est une forme magnifique que l'Esprit-Saint a dictée à Jean pour nous montrer la grandeur dans cet épilogue qui correspond à ce prologue de la grandeur de Dieu le Fils. Au début, nous avions vu la grandeur de celui qui est au commencement, à ce commencement auquel on ne sait pas mettre de date, qui est auprès de Dieu, qui est Dieu. Et dans l'épilogue, Jean n'a plus grand-chose à ajouter. Il a laissé des choses sous silence, mais il était tellement transporté, tellement émerveillé de la grandeur de son Seigneur, de celui qu'il avait suivi, celui qu'il avait reconnu comme étant le Fils de Dieu, que il ne sait que dire, je pense pas que le monde entier, le cosmos entier, parce que Dieu est plus grand que sa création, et le Seigneur Jésus est beaucoup plus grand que le cosmos entier, que les étoiles dans leur armée immense, comme un poète a su le mettre. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre chiasme. Je ne sais pas si ça vous a convaincu. C'est une lecture de l'Évangile selon Jean. Est-ce la seule ? Absolument pas. La parole de Dieu n'est pas réductible à nos petits schémas intellectuels. La parole de Dieu n'est pas réductible à nos petits schémas intellectuels. Alors, celui-là, il me semble, il a pour lui un petit peu plus le fait d'une objectivité qui est basée sur le texte lui-même. Mais vous pourrez entendre d'autres expositions de l'Évangile selon Jean qui apportent aussi sous un autre angle. Je me rappelle ici même avoir entendu quelque chose sur l'Évangile selon Jean en parallèle avec le tabernacle. C'est un sujet autrefois classique en tout cas, je ne sais pas s'il est toujours. Mais toujours est-il que cette approche-là, elle nous permet en tout cas de voir des choses importantes. Elle nous permet de voir que pour que nous ayons la vie, la partie E, il a fallu la partie E', c'est-à-dire la mort du Seigneur Jésus. la vie éternelle ne pouvait être qu'à ce prix. Qu'à ce prix. S'il n'y avait pas eu la mort, il ne pouvait pas y avoir la vie. Et puis, quel était le propos du Seigneur Jésus quand il est venu sur la terre? Pourquoi il n'est pas venu directement pour mourir sur la croix? Ça aurait été suffisant pour notre salut. Si le Seigneur Jésus était venu directement le jeudi de Pâques, il serait directement allé à la croix, c'était envisageable. Pourquoi il y a eu ces 3 années? Parce que pendant ces 3 années, comme il le dit dans cette prière du chapitre 17 de cet évangile, « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Et le Seigneur Jésus, il est venu, comme exactement ce qu'on a chanté dans notre cantique 195, c'est exactement ça. Il est venu pour nous donner la connaissance du Dieu de vérité, de lumière et d'amour. Et qu'est-ce qu'on trouve comme les deux parties centrales de cet évangile? Eh bien, exactement ce qu'est Dieu. Et ce que le Seigneur Jésus est venu nous présenter sous forme humaine, lui Dieu le Fils, dans sa grandeur, il est venu nous présenter ce qu'était Dieu. Un Dieu qui est lumière et amour. Et comme en Dieu, la lumière et l'amour se concilient sans opposition, on trouve pour ces 2 aspects, exactement 5 chapitres chaque fois. Alors je sais bien que le découpage en chapitres n'est pas inspiré, qu'il est venu des années, des siècles après, mais quand même, je pense que c'est pas sans signification qu'on trouve chaque fois 5 chapitres qui nous présentent Dieu de lumière, Dieu d'amour. Et que va dire le même apôtre dans sa première épître? Il va dire Dieu est lumière. Et il va dire Dieu est amour. Il dira même 2 fois Dieu est amour. Pourquoi? Parce que la grâce est venue avant la vérité. Enfin, elle est venue avec la vérité, mais elle est nécessairement d'abord. Parce que sinon, où serions-nous? Et alors, nous avons, et je termine par là, ces 3 verbes. Croire, demeurer, marcher, demeurer. Le préalable, c'est de croire. Si on ne croit pas, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie éternelle, on est encore dans ses péchés. On a la colère de Dieu qui demeure sur nous, chapitre 3, verset 36. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais une fois qu'on a la vie de Dieu, on est appelé à 2 choses. On est appelé à marcher dans la lumière et à demeurer dans l'amour. Marcher dans la lumière, ça veut dire chaque jour se mettre dans la lumière de Dieu. Ici, c'est bien, je suis bien éclairé. C'est très pratique, merci. Mais si j'ai une tache sur ma veste, j'espère que je vais manger proprement à midi chez Bernard et Marie-Noël, mais je la verrai sans problème parce que c'est bien éclairé. Et donc, ça nous encourage à chacun des progrès à faire pour marcher dans la lumière d'une façon qui plaise au Seigneur Jésus. Mais si ce n'est pas équilibré avec demeurer dans l'amour, eh bien, ça va vite devenir une quête légaliste où on va dire, bah, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et cela ne peut être valable que si on demeure dans l'amour du Seigneur Jésus. C'est pour cela que peut-être c'est donné dans cet ordre-là. C'est, on demeure dans l'amour du Seigneur Jésus. Et cet amour, eh bien, on essaye aussi de le recevoir pour le manifester les uns envers les autres. Et donc, rien que ce plan de l'évangile selon Jean, et il y aurait beaucoup d'autres détails encore à donner, eh bien, est riche d'enseignements pour nous. Et il nous permet surtout, toujours est-il que c'est la lecture que j'en fais, d'être émerveillé, non seulement devant la grandeur et la richesse de la parole de Dieu, mais par-dessus tout, devant la grandeur et la richesse de celui qui nous présente, qui est venu, Dieu le Fils, qui est venu nous témoigner, qui est venu se révéler, qui est venu nous parler de ce Dieu que sinon nous n'aurions pas réussi à connaître, qui est mort, qui est ressuscité et qui reste pour l'éternité dans sa grandeur infinie.